la musique.
Caravanana maximum.
Je me fous du.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Inoubliable.
Só for da laca.
Vive mon pain, vive le soleil. Vive
les oreilles.
Vive.
D'audit voit qu'il y aura bataille, il devient plus féroce que lion ou léopard. Vers lui s'avance l'autocontrôle et le farouche conseil d'administration. L'arbre de décision y vient et l'amélioration continue, et aussi l'assurance qualité et l'analyse des processus. Chanson de gestion. L'agrégateur de contenu se désagrège et perd contenance. Le baliseur des processus ne peut s'empêcher de pleurer. Consultants et experts sur lui s'attendrissent. Et pour le business plan, redoute le pire. Le perfide chef de projet l'a trahi. Du concurrent, il a reçu de riches dons. Actions, stock options, chameaux et lions. Chansons de gestion. Le manager dit j'irai par ma tête. Il cherche par le brainstorming, il cherche par le benchmarking. À eux tous, ils choisissent 20 000 certifications ISO. Au pays, dit-il, dont il est le seigneur. Le calibrage impose ses contraintes par échantillonnage et classification des vilains défauts. La curiosité est un coût paramétrique par critère. Certains disent que le client interne y demeure. Chanson de gestion. L'enquête de satisfaction client débouche sur des insatisfaits. Le suivi des fournisseurs perd leur trace à Roncevaux. Malgré l'étalonnage au trot au galop, ils laissent les mulets et tous les pales froids. L'évaluation par critères pondérés croule sous les équipes de travail. L'effet de défaillance efface l'efficience. La fidélisation de la clientèle fait fi des infidèles. Les fiches de contrôle arrivent comme la grêle après le forage de données. Chanson de gestion. Le manager dit j'ai ceint le cahier des charges fonctionnelles. À Roncevaux, je déploierai le diagramme cause-effet. Si je trouve sur mon chemin le vaillant diagnostic qualité, malgré les directives sagittales pleines de défaillances, je conquérerai le dossier machine qui a échappé à la détection matricielle. 1000 clairons sonnent pour que ce soit plus beau. Chanson de gestion. Des groupes de discussion gaspillent la gestion des savoirs. La gouvernance des plaintes forme processus et priorité. La consultante dit les objectifs santé et sécurité de l'organisation suivent les orientations stratégiques de l'organisme. Le manager répond, l'inspection incrémentée informe l'infrastructure. Les intervalles de confiance ne valent plus ISO 9001. Jetons le jalon du jet d'idées et libérons les 5 pourquoi du leadership. C'est la limite critique de toute liste de contrôle, de non-conformité aux normes actuelles. Chanson de gestion. La consultante dit, la matrice des responsabilités décrit un management irresponsable. Le qualitologue qualifié à quantité de comportements inqualifiables. Le manager répond, la maintenance prédictive selon la méthode EVOP, autant que moi mérite des blâmes. L'organigramme indique un mauvais traitement des données. Les données ne se donnent plus pour rien. Chanson de gestion. La consultante dit, les indicateurs de performance s'interchangent. L'innocuité impacte l'incertitude de mesures implémentées. Manager, mon compagnon, sonnez votre corps. Le manager répond, ce serait une folie. Les méthodes de traitement de problèmes arrivent à bout de toutes les solutions. Le produit fini est perfectible à l'infini. La planification des besoins matériels, elle aussi, se dématérialise. Manager, mon compagnon, l'olifant, sonnez le ton. Le manager est vaillant et la consultante est sage. Tous deux sont de merveilleux vassaux. Chanson de gestion. Les processus de mesure produisent des procédures. Les prérequis opérationnels souffrent de pertes relatives à la qualité. La bataille est merveilleuse et pénible. Consultants et managers frappent à tour de bras. Sur les claviers et les tablettes, ils s'adressent aux collaborateurs et leur tiennent un sermon. Si vous prenez des risques acceptables au recrutement, vous aurez des sièges au plus haut reclassement. Chanson de gestion. En plein midi règne de sombres ténèbres. Plusieurs disent que c'est la veille informationnelle. Le point critique pour la maîtrise auquel nous assistons. Le manager dit nos collaborateurs sont très braves. Sous le ciel il n'est personne qui ait moins d'indicateurs de performance. Il est écrit dans l'histoire de l'approche orientée client que le sondage de satisfaction spécifie les sous-contractants. Je préfère mourir que subir la honte. C'est le grand deuil pour le tableau de bord. Chanson de gestion. La consultante dit la traçabilité des tests de normalité est leur tâche. Votre mort impacterait le plan d'audit et donnerait des facteurs critiques de réussite aux concurrents. Manager, mon compagnon, sonnez vos chronifants. Le manager sait qu'il a perdu la vue. Il se redresse et fait tous ses efforts. Son visage a perdu sa couleur. Devant lui, il y a un tableau Excel. Il y entre 10 chiffres de chagrin et de dépit. Ah, reporting et controlling, quel malheur pour vous. Puisque je suis perdu de vous, je perds la charge. Combien de batailles pour vous j'ai remporté. Combien j'ai compris de marchés immenses. Pour ce tableau Excel, j'éprouve douleur et peine. Mieux vaut mourir que le laisser à la concurrence. manager est étendu sous un computer. Vers Roncevaux, il a tourné son visage. Le manager est mort, mais ses données sont stockées. Elle recycle l'âme du manager en algorithme. Chanson de gestion.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse, et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui avec notre invité. Alors comment on dit ton nom? Je m'étais dit, il faudrait que je lui demande avant qu'on commence.
Alain Freudiger. En fait, c'est un nom suisse alémanique. Donc si on prononce à l'allemande, ça fait Freudiger. Mais Freudiger, ça va aussi.
Freudiger, on va dire. Ouais, quand même. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on vient d'écouter?
Alors c'est un extrait d'une poésie performance que j'ai élaboré avec un ami batteur qui s'appelle Jérémy Cohn, et ça s'appelle le management, c'est la fin du management. En fait, on a utilisé tout ce qui est ce langage managérial de la gestion, etc., pour le réduire en pièces, en faire de la poésie. Et puis c'est en quatre parties et ça finit par une sorte de chanson, de geste comme ça, de chanson de gestion en fait. Et puis je voulais ouvrir avec ça puisque je suis venu ici à Paris pour faire de la chanson de geste contemporaine.
Ah bah on y reviendra plus tard parce que j'aimerais bien que tu m'explicites le truc. Mais peut-être un peu pour les auditeurs, il faut te présenter. Et notamment te présenter, voilà, dire qui tu es et dans quel domaine tu interviens, dans quel domaine tu agis. Et aussi, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment toi-même tu définis ce que tu fais, performance, poésie sonore, musique électroacoustique, je ne sais quoi. Autant que ce soit toi qui le dise.
En fait, c'est assez varié parce que moi, je suis d'abord auteur et puis ouais. Je viens du texte, de l'écrit. Mais la plupart des gens que je côtoyais dans les milieux artistiques de mes amis, c'était pas du tout le milieu littéraire, c'était des musiciens. Donc très vite, j'étais amené à faire des lectures accompagnées de musique. Très vite aussi, j'ai vu que moi, j'étais prisonnier du texte avec ses phrases, ses points, son rythme propre, tandis que les musiciens avec qui je travaillais improvisaient beaucoup. Donc je me suis mis à déstructurer mes textes, à en faire de la charpie parfois, puis même ensuite à écrire des textes uniquement pour l'oralité ou pour travailler avec des musiciens. Donc à partir de là, ça recouvre un champ assez vaste, j'appelle ça peut être de la poésie, parfois de certains projets c'est carrément de la musique électroacoustique ou de la poésie électroacoustique, et puis parfois ça se rapporte plus à la performance ou des choses qui peuvent se rapprocher, c'est ni du slam ni du hip-hop, mais certaines fois ça peut s'en rapprocher. Ouais, donc moi en fait j'utilise un terme anglo-saxon pour recouvrir tout ça qui est spoken word. Ça me permet de manière plus facile de mettre tout ça ensemble.
D'accord. Alors après, moi, je pose des questions candides, hein. Tu m'excuseras, mais j'ai un problème. On en reviendra dans quelques semaines avec les toboggans poétiques, puisqu'eux également se définissent en tant que poètes. J'ai un problème avec ce terme-là.
Le terme de poésie?
Oui, j'aimerais bien que, si tu peux l'expliciter, tout simplement parce que, voilà, moi j'ai une image scolaire peut-être de ce que c'est, hein, les trucs qui riment et tout ça, et j'aimerais bien que quelqu'un qui est baigné dedans, j'imagine bien ce que ça peut être, mais pour avoir fait plusieurs émissions sur des poètes fameux, mais j'aimerais bien que quelqu'un qui est dedans, quoi, m'explique ce qu'il entend par ça.
Alors pour moi, la poésie, c'est d'abord travailler la matérialité de la langue. Ça peut être de différentes manières. Il y a des poètes qui travaillent avec le visuel, qui soignent des objets, mais purement visuels. D'autres qui travaillent le son, d'autres qui travaillent la parole ou le souffle, parfois même la parole empêchée, d'autres le rythme. Mais en tout cas, l'essentiel dans la poésie, c'est quand même quelque chose de matériel, de formel, de sensuel, en tout cas, où les mots ne sont pas là pour simplement signifier quelque chose, mais qu'ils aient un corps. Mmh. À partir de là, ça peut partir dans beaucoup de directions. Moi, c'est vrai que je me sens plus proche de tout ce qui est musical, rythmique, sonore. Donc, contrairement à beaucoup de poètes contemporains, je ne fuis pas la rime, je l'utilise parfois. Par contre, tout ce qui est vers trop régulier, c'est vrai que j'ai envie de le briser. Mais il y a beaucoup de démarches qui partent dans différentes directions, mais cette matérialité, elle est cruciale, ouais, c'est ça.
Alors, j'ai lu sur toi, tu as un site internet, et on trouve pas mal de choses. Et alors, il y a notamment des liens vers plusieurs sites. Et j'ai lu que avant, tu as participé à une revue de cinéma. Et je crois même que c'est un peu ta spécialité. Je vois ton sac, la Swiss Film.
Oui, oui, oui. Non, j'ai une formation d'historien du cinéma, effectivement. Et j'ai écrit pendant plusieurs années pour une revue qui s'appelle Décadrage. Très bonne revue d'ailleurs, très, très pointue, comme ça, une revue universitaire d'analyse de films. À travers ça, ben, ça m'a donné une sorte de pratique d'écriture. Mais au bout d'un moment, c'est vrai que j'avais envie de passer dans une écriture plus créative, plus comment dire, performative aussi. Ouais. Mais le cinéma, ça a été une de mes premières influences, effectivement. Peut-être conjointement à la musique. Il y a aussi un rapport visuel assez fort dans ce que je travaille. Mais je ne me suis jamais poussé plus loin. Je n'ai pas commencé à faire des spectacles de poésie qui incluraient de la vidéo, du film, etc. C'est encore une autre démarche.
Une autre dimension. Tu n'as jamais voulu passer derrière la caméra ?
Si, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais commencé des études de cinéma. Mais en fait, c'est des études d'histoire du cinéma et pas du tout de réalisation. Ah, oui. Et ce n'est pas la bonne voie pour faire de la pratique. Et puis, au bout d'un moment, j'ai quand même réalisé que le cinéma, c'est une industrie, c'est une machinerie lourde. Travailler en équipe, ça m'aurait plu. Mais par contre, avant même de monter le moindre film, il faut boucler des projets, des budgets. C'est souvent assez laborieux. Tandis que pour écrire un papier, un stylo ou alors un ordi, c'est suffisant. C'était beaucoup plus rapide et plus léger pour arriver à quelque chose, à produire quelque chose, à construire quelque chose. Donc pour l'instant, j'ai renoncé.
Oui, alors bien sûr, on pourrait comparer l'industrie de la musique à l'industrie du cinéma. Tu peux faire des disques, machin, produits par Universal et toutes ces conneries, comme tu peux faire des films. Enfin, j'imagine que tu connais aussi les milieux alternatifs, et il y a également un cinéma alternatif.
Oui, bien sûr, on peut faire des films à punk, où on commence à travailler avant même de savoir utiliser les outils. De toute façon, en plus, avec le numérique, c'est devenu beaucoup plus facile. Effectivement. En tout cas, j'ai travaillé un peu de montage. Je continue à faire de temps en temps. Ça m'intéresse. Je n'ai pas perdu l'intérêt, mais disons qu'après, on se disperse aussi. Il faut, le temps n'étant pas infini, il faut avancer dans différentes choses. Et j'ai creusé plutôt la parole et l'écrit. Mais ce n'est pas forcément sans issue.
C'est pas perdu.
Ouais,
alors, ce que je comprends de ton parcours, c'est que tu fais donc ces études de cinéma, donc tu écris en tant qu'historien, et j'imagine tu participes à des revues et tout ça. Et donc c'est par ce biais que tu viens à l'écriture. Genre, on n'a pas bien défini ton parcours.
À écrire.
En fait, ma question que j'aime bien poser, c'est voilà, c'est une émission où on s'intéresse aux trucs un peu hors normes, aux gens qui font des trucs qui sont un peu inouïs, dans le sens où on n'entend pas ça tout le temps à la radio. Et moi, ce qui me passionne, en fait, c'est de savoir comment ces gens sont arrivés là, quoi. Au lieu de suivre la ligne droite, quoi, la ligne normale, quoi.
Bon, c'est vrai que j'ai toujours aimé écrire depuis gamin, déjà. Et puis, assez vite, même adolescent, je savais que je voulais faire quelque chose et continuer à écrire. D'abord de la poésie, d'ailleurs, de la poésie d'adolescent que je lirai à personne aujourd'hui, mais qui était formateur, en fait. C'était ça m'a permis, parce qu'en fait c'est un champ d'expérimentation assez large de pouvoir écrire directement de la poésie. Et puis ensuite, c'est vrai que je suis parti dans ces études de cinéma, j'ai fait critique de films, j'ai écrit dans différentes revues de cinéma. Tout ça exerce l'écrit, mais au bout d'un moment ça enferme le texte dans des sortes de stéréotypes ou de phrases trop construites, que ce soit du niveau universitaire ou simplement revue journalistique, mais on s'enferme. Donc moi, j'ai continué à écrire en parallèle, et je me suis mis aux fictions, parce que la poésie, finalement, je l'ai abandonnée, je sais pas, il y a quelques années, dans l'espoir de publier, en fait. Et puis j'ai réalisé que je continuais à écrire de toute façon en parallèle des choses plus déstructurées, et que c'est ça que la rencontre avec des musiciens m'a permis de creuser, justement.
Alors, on va revenir plus tard sur la musique et sur ce que tu as publié. Pour terminer sur ton parcours, et puis on écoutera Castor, je crois. Je voulais aussi, j'ai vu aussi sur un des sites que tu avais écrit des sketchs et que tu as interprété avec un duo comique. Alors c'est assez particulier ça, et que tu as écrit également en mémoire sur les Monty Python. Et je voulais savoir ton opinion sur l'humour déjà. Est-ce que l'humour reste important dans ton écriture actuelle ?
J'aimerais dire malheureusement oui. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu tout ce parcours... Monty Python, travailler sur les Monty Python, ces sketchs comiques qu'on interprétait, c'est vieux maintenant, mais c'est vrai que c'était parmi les premières expériences scéniques. Et puis l'humour a toujours une place importante dans certains de mes écrits, mais à tel point que même quand je n'ai pas l'intention d'en mettre la moindre once, on retrouve de l'humour et les gens rient, même à des performances qui pour moi ne sont pas a priori comiques. Donc je pense que oui, c'est toujours là, même à mon insu.
Ah oui, mais pourquoi malheureusement ? Parce que finalement, c'est pas si mal de...
Malheureusement, pour une seule raison, parce qu'évidemment, c'est plaisant de faire rire les gens, c'est même merveilleux.
Oui.
La seule raison, c'est que ça peut enfermer dans une tonalité. J'aime pas tellement être enfermé, c'est aussi pour ça que j'ai écrit dans des formes assez différentes, c'est l'enfermement, non.
Et puis ça fait de toi un rigolo après, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'imagine que si t'es enfermé dans l'humour, t'es toujours un peu censé faire rire.
C'est ça, après on attend de toi que tu fasses rire, puis si tu le fais pas, tiens, il a un autre registre, au mieux, ou alors, mais quand c'est que tu nous fais à nouveau rire?
Ouais, alors après, il y a peut-être la dérision, enfin, le premier truc qu'on a entendu quand même sur le management, enfin, puis il y a d'autres texte de toi, il y a quand même une dérision, tu rigoles des managers de ce langage d'entreprise.
Ah oui, mais heureusement, la palette de l'humour est assez large. Il peut y avoir de la dérision, de l'ironie, de l'autodérision, il peut y avoir des gros rires francs. C'est clair qu'on peut faire toute une vie dans le rire et dans l'humour. Après, encore une fois, le management, pour moi, c'est de la dérision, mais c'est aussi des pics, c'est aussi du jeu. En fait, la dimension du jeu avec la langue, elle est importante aussi. Mais comme je disais, je n'avais pas forcément l'intention de mettre de l'humour là-dedans. Et puis, il revient quand même. Chasser, le refouler et leur sauter à la figure.
Oui, parce que management, ça peut être quelque chose de très douloureux pour les gens qui y sont confrontés, malheureusement. Ça, c'est clair.
Alors, malheureusement, ça continue à l'être.
Ah oui. Peut-être on va écouter quelque chose. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce castor?
Alors c'est l'issue d'une improvisation musicale que j'ai fait avec un duo qui s'appelle Sapin Magique. C'était dans le cadre d'une bibliothèque éphémère, une librairie éphémère. Ouais. Et puis j'avais été invité à improviser avec eux et je suis parti sur un texte que j'avais écrit qui s'appelle Le Castor. Et puis ça donne ce qu'on va écouter. J'ai plus de doute, il y a un castor au dernier étage. Les gens veulent pas forcément me croire. J'en ai déjà causé au voisin ou au bistrot. Mais bon, après, je passe pour un taré, pas ça que je veux. S'ils m'écoutent pas, tant pis pour eux. Ils verront bien quand la catastrophe sera arrivée. Parce qu'elle arrivera, ça je peux vous le garantir. Peut-être que je suis le seul à m'en rendre compte, mais quand même, il faut bien que ça commence quelque part. Moi je vous le dis, j'en suis sûr maintenant, il y a un castor au dernier étage là. On voit pas en ce moment parce que les volets sont fermés. Mais j'ai fait attention et j'ai tout noté, j'ai regardé. Il a pris son temps, il a vraiment pris son temps, ça s'est pas fait d'un coup. Et c'est pour ça que les autres n'ont pas remarqué. C'est petit à petit, du coup ils ne s'en rendent pas compte. Le castor, il a pris son temps. Mais il construit des barrages aux fenêtres et même quand les volets sont ouverts, on y voit de plus en plus rien du tout à travers. Mais de l'extérieur, les gens, ils voient encore les vitres et si la lumière s'y reflète, on voit pas à l'intérieur. C'est pour ça que les gens, ils remarquent rien. Bon, soit ça me gêne pas qu'ils construisent des barrages à ces fenêtres, je suis pas du genre à me mêler de ce que font mes voisins. Mais là, c'est différent, c'est un castor. Et il bouche les fenêtres en empilant du bois, il fait des barrages. Ce bois, ben c'est simple, je vous le donne en mille, il ronge les poutres, un castor je vous dis. Je vois bien que vous ne me croyez pas, mais je déconne pas, il y a un castor.
celui qui habite au-dessous. C'est un petit vieux qui picole sans arrêt, peut-être même qu'il est sourd. On peut pas faire attention à ça, parce que les sons sont précis, mais c'est des petits sons. Moi je les entends parce que j'ai de l'oreille fine, et la première fois que j'ai remarqué, c'était en montant une fois au grenier. Je me suis dit un truc bizarre, parce que le bois, c'est le gars. Il avait, je sais pas moi, un atelier chez lui qu'il sciait ou rabotait. Je saurais reconnaître, ça fait pas ce son là. Je le sais moi, j'ai été menuisier il y a longtemps de ça. Et là chez lui, celui du haut, ça scie pas, ça rabote pas, ça coupe pas, ça taille pas, ça ponce pas non plus, ça arrivera, parce qu'elle arrivera, c'est sûr. Le castor, il ronge, mais vous croyez qu'il ronge quoi? Les poutres, évidemment. Faut pas croire que je délire. Il y a un castor au dernier étage, il construit des barrages aux fenêtres. Regardez, on n'y voit rien. Et pour ça, il utilise le bois des poutres. L'immeuble va finir par s'effondrer, c'est sûr. Je vois pas d'autre issue. Comment qu'il pourrait tenir, c'est qu'une question de temps, c'est pour ça que j'en parle maintenant. On pourra pas dire que j'avais pas prévenu. Maintenant j'ai changé mes horaires, je veille la nuit, remarquez que c'est pas difficile, je suis sans emploi, des mois que je me bats, mais maintenant j'ai autre chose à faire. Je veille et j'écoute, je prends des notes, j'ai acheté un petit carnet avec une couverture rouge. Termitière, je l'ai intitulé comme ça, ça m'est venu. Termitière, ça sonne bien. Et dedans, je consigne tout, la date, l'heure, ce que j'entends. Je décris les types de bruit, la durée de rongeage, les éventuelles vibrations ou la poussière. Ça y a pas trop. N'empêche, je le sais bien que le castor, il avance. À quoi ça va me servir? Je sais pas. Peut-être que je pourrais le transmettre à la régie. Ou à la police, ou alors je vais le garder, et ce sera juste la chronique de ce vieil immeuble qui s'effrite, qui s'effondre, parce qu'il va s'effondrer, ça je vous le dis, mais il va s'effondrer de l'intérieur, et personne ne verra rien venir, parce que les poutres, elles seront toutes rongées, mais les fenêtres, elles seront barragées, et de dehors, on verra rien. Et c'est ça aussi le drame, mais ceux qui veulent rien voir, ils verront rien, ça c'est sûr, c'est après qu'ils seront bien surpris. Mais pendant ce temps, le castor, lui, il avance tranquille. Moi, je vous le dis, le passant, il longera le trottoir, il verra cette vieille baraque branlante, avec au dernier étage des fenêtres condamnées, cloîtrées, barricadées, et il comprendra pas que dedans, il n'y a plus rien. Il se dira, c'est une maison à l'abandon, ou c'est une maison close, ou je sais pas ce qu'il dira, que les habitants ont peur du soleil, ou qu'ils font des affaires, ou que c'est pour une photo, ou que sais-je encore, mais il se dira pas que là habitent des gens, et que tout s'effondre de l'intérieur, et qu'à l'extérieur on ne voit rien, ça il le dira pas. Comment il le saurait? Personne peut croire ça, sauf moi, mais on ne m'écoute pas, ça arrive pas souvent. Évidemment, faudrait être dingue pour croire qu'il y a un castor au dernier étage, mais il y en a un. Si je l'ai vu, non, il sort jamais de chez lui, l'animal, qu'est-ce qu'il irait foutre? Il a du boulot là-haut, et puis assez à ronger, à barrager. Des fois, je me dis que je pourrais débarquer chez lui et lui clouer sa queue. Le vider de sa graisse, le castor, en faire un bonnet de sa peau, Davy Crockett, ouais, mais j'aime plutôt les bêtes et j'ai de la peine à leur faire du mal. Et en plus, j'ai essayé de sonner une fois là-haut, mais évidemment, personne ne répond. Qu'est-ce qu'il viendrait m'ouvrir, le castor? Il faut pas qu'on vienne l'emmerder, il a sa tâche et c'est tout ce qui compte pour lui. Il détruit l'immeuble de l'intérieur et il fenêtres, et comme ça on voit rien, personne ne se doute de rien. sauf moi, mais ça c'est notre histoire. Enfin, je sais pas si c'est la vôtre, je vois bien que vous pensez que c'est moi qui suis rongé, ravagé. J'aime pas trop votre regard et dès le début je l'ai pas aimé. Mais vous écoutez, c'est pour ça que je vous dis tout ça. Mais vous me croyez pas, ça se voit, vous me prenez pour un dingue, je m'en fous. Pensez ce que vous voulez, pour ce que ça va changer. Vous pourrez pas dire que vous avez pas prévenu et vous serez bien avancé à pas me croire. Y'a peut-être un castor chez vous.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres, avec Alain Freudiger. Alors, on a écouté le castor.
C'était le castor.
Alors, moi, j'avais une... Alors, tu viens de Lausanne. Je suis allé, on parlait hors antenne, j'étais à Genève, à ce fabuleux festival Acouphène. Et nous avions profité d'être à Genève pour faire un petit tour à Lausanne, au musée de l'art brut.
Ah oui, Lausanne a deux joyaux, le musée de l'art brut et le CIRA, le Centre international de recherche sur l'anarchisme.
Mais tout à fait, oui. Ah ben oui
bon, il y en a d'autres, mais ceux-là sont
fameux.
Et oui, uniques en Europe.
Uniques en Europe. Et alors, moi, je voulais parler de l'art brut pour savoir si tu te considérais, toi, comme un amateur ou un professionnel. Est-ce que tu as une activité salariée par ailleurs ou...
Ah oui, parce que pour vivre de sa plume ou de ses écrits, ou de ses performances, parce qu'en fait, je gagne plus d'argent sur la scène que par l'écrit lui-même. C'est marrant. Mais non, moi j'ai une activité salariée. Je suis archiviste radio, d'ailleurs, à la radio-télévision suisse qui n'est pas à proprement parler une radio libertaire, mais une radio de service public.
Oui.
Et donc je fais ça, je travaille à temps partiel, ce qui me laisse un peu de temps pour mes travaux poétiques variés.
Et ton opinion, enfin ton ressenti sur l'art brut et l'homme du commun, l'ouvrage, comme disait Dubuffet.
Alors je suis pas mal allé au musée de l'art brut, il y a des choses absolument magnifiques. Ouais. Après, je pense que ça a été une révolution importante dans la perception de l'art lorsque ça a été institutionnalisé. Maintenant, il y a peut-être se pose le problème de l'institutionnalisation, justement, et d'autres enjeux entre matières. Sans parler du fait aussi qu'il commence à y avoir des boucles de rétroaction, c'est-à-dire les gens sont influencés par l'art brut font du quasi-art brut, mais ne sont pas du tout des artistes bruts, etc. Ouais. Donc la frontière qui était dessinée tend aussi à disparaître. Mais ça questionne beaucoup de choses. Mais c'est un peu parallèle à ce mouvement des arts premiers dans les avant-gardes, notamment en France des années 20-30, redécouvrir les choses, et ensuite ça finit au musée avec Jacques Chirac. Disons qu'on va peut-être qu'il faut changer les termes, ou encore une fois déplacer les dénominations pour pas enfermer les choses.
Oui, oui. Alors après, il y a plein de termes, effectivement, mais bon.
Mais sur l'amateurisme, et puis le côté peut-être punk ou do it yourself, oui, ou parfois lo-fi, tout ça, il y a une fraîcheur et une inventivité qu'il faut conserver. Après, moi, je ne suis pas pour mettre des barrières absolues amateurs, professionnels. Ouais, ouais. C'est pas tellement intéressant, à mon sens.
En t'entendant parler, ça m'évoque le film de Jim Jarmusch. Je sais pas si tu l'as vu, Patterson.
Pas celui-ci.
Alors, il est question d'un chauffeur de bus qui écrit de la poésie, et il est question de Jean Dubuffet à la fin. Je te le recommande vivement.
J'irai voir.
C'est pas toi qui es cinéphile en plus. Oui, oui, oui.
Oui, j'aime beaucoup Jarmusch.
Ah oui, oui. Je voulais t'interroger sur tes écrits, sur ce que tu as publié. Est-ce que tu peux nous en parler, nous décrire quel genre ? Est-ce que tu fais des nouvelles, des romans ?
J'ai publié diverses choses. Les premières choses, c'était deux romans. Le premier, Bujard et Panchaud ou Les faux consommateurs, c'était une sorte de roman humoristique sur la société de consommation. Et le suivant, Les places respectives, c'était un travail plus expérimental, un roman polyphonique et assez sonore, assez expérimental, qui a d'ailleurs pas marché du tout. Ouais. Et puis ensuite, je me suis lancé dans des formes plus courtes, des nouvelles, des poèmes aussi, des chroniques, des pamphlets, jusqu'à publier il y a 2 ans un petit livre qui s'appelle Morgarten. Et là, c'est là qu'est venue cette idée de chanson de gestes contemporaines.
Bon, bah, allez-y. Ah non, peut-être que...
On va en parler plus tard.
Oui, pardon. Je voulais que tu... Il y a un truc que tu as écrit qui s'appelle Espagne aussi.
Espagne, voilà, ça c'est le dernier né. C'est un recueil de nouvelles qui est sorti l'été dernier aux éditions de La Baconnière. C'est des nouvelles assez courtes, assez denses, assez rythmiques aussi, souvent.
Espagne, ça parle de quoi? Quels sont tes thèmes de prédilection? De quoi parles-tu?
Alors, Espagne, il faut déjà préciser que c'est Espagne avec un S, donc ouais. C'est Espagne au pluriel. Et en fait, c'est une sorte d'allusion, je ne sais pas, aux châteaux qu'on se construit en Espagne, aux Espagnes imaginaires. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces Pyrénées?
Nous, les anarchistes, nous avons de l'imaginaire avec l'Espagne.
Hein. Alors justement, c'est aussi une référence à ça. Personnellement, je ne suis jamais allé en Espagne. J'ai qu'une Espagne fantasmée, que ce soit celle de la guerre d'Espagne, que ce soit celle des différents royaumes espagnols.
Donc, révolution espagnole.
Révolution.
Oui.
Oui. Sans parler de Don Quichotte. Donc, il y a toutes ces Espagnes qui se mêlent. Et en fait, c'était ça le dénominateur commun. C'est le titre d'une des nouvelles, en fait, mais c'est celle qui était la plus propice pour réunir toutes ces pièces disparates dans une unité apparente, mais qui reste plurielle.
Et j'ai vu que tu écrivais des fables aussi. Alors ça me branche bien, ça m'intéresse beaucoup, ça.
Oui, alors ça, c'est vrai que j'ai un peu délaissé, mais j'ai écrit un certain nombre de fables. Parce que... En fait, tout le côté moral de la fable qu'on pouvait retourner comme un gant, j'aime beaucoup jouer avec des formes premières. C'est peut-être en ça que c'est peut-être l'ère du temps aussi qui veut ça, mais je travaille avec des langues préexistantes, parfois médiatiques, publicitaires, journalistiques ou autres. Mais parmi ces langues premières, il peut y avoir des histoires connues de tous, ou des contes ou des fables, et puis essayer d'en faire des écritures contemporaines. Et c'est vrai que je me suis amusé un temps à faire ça. Et forcément, la morale ou la fin ou la direction, parce que ce n'est pas forcément une morale, prend un autre tour parce que le monde contemporain n'est plus celui dans lequel ces fables avaient été écrites, même si un certain nombre de vérités continuent à traverser, comme selon que vous serez puissant ou misérable, et ce genre de choses. Mais d'autres histoires peuvent être retournées comme un gant. Par exemple, je m'étais amusé avec le conte d'Anderson sur les habits neufs de l'empereur, où finalement il se retrouve tout nu alors qu'il est habillé, dans une époque où, au contraire, on est dans la transparence et la mise à nu. Je m'étais amusé à faire une histoire où un personnage souhaite être nu et se retrouve habillé de pied en cap tout en pensant être encore plus nu que tout le monde. Pareil. Ah, oui. Voilà. Ça s'appelle Le Bouffon, c'était une petite fable.
Alors, est-ce qu'il y a des animaux dans tes fables?
Oui, alors l'animal, justement, j'hésitais à parler de l'animal tout de suite, mais oui, les premières fables, c'était lié à des animaux. J'ai souvent travaillé avec des animaux, mais de manière de biais, sans le prendre comme matière première directe. Et puis finalement, j'ai réalisé que les animaux étaient là très souvent, donc j'ai carrément commencé à écrire un certain nombre de textes sur les bêtes, jusqu'à constituer un bestiaire.
Voilà, oui, oui.
Qui était issu justement d'une collaboration avec deux autres poètes, Nicolas Carrel et Heike Fiedler, et des musiciens, Martine de Morzier, Luc Muller et Raphaël Racouilla. Et sur une base improvisée, on a fait un spectacle musical et poétique bestiaire.
Bestiaire. Alors, qu'est-ce qui t'intéresse? Moi, il y a un truc qui me fascine, c'est par exemple dans les documentaires animaliers, il se passe une action, en général des lions qui bouffent une gazelle, quoi, et où il se passe ce qui se passe, et il y a toujours une morale, c'est rapporté à l'être humain. Voilà, il s'est passé ça parce que dans La raison du plus fort ou je sais pas quoi, tu vois, il y a toujours un anthropomorphisme. Est-ce que ça te parle, ça?
Ah oui, ça c'est fondamental. C'est justement ce rapport à l'humain, mais aussi parce que ce qu'on voit dans l'animal, on se voit nous-mêmes, ou alors c'est l'animal qui nous regarde et qui nous dévoile notre propre gueule, comme on dirait. Et puis c'est le rapport, parce que tous ces documentaires animaliers ont souvent une prétention objectiviste, etc. Moi, je travaille plutôt le rapport direct à l'animal. Souvent, je vais m'adresser aux animaux, je vais les tutoyer, je vais les interpeller, et en retour, il se passe aussi quelque chose. Mais c'est directement un rapport de dialogue, parce que fondamentalement, il y a quand même ce truc qui me travaille, c'est que l'expérience humaine, pendant des millénaires, elle a été... C'était très marqué par le rapport aux animaux. C'était fondamental. Hein. Mmh. Une des bases de la découverte, c'était l'animal, une des plus grandes étrangetés. Puis à force de vivre dans des villes, d'industrialisation, etc., on restreint le rapport aux animaux. Il y en a de moins en moins, enfin, en tout cas du nombre d'espèces différentes. Donc on perd ça, mais c'est quelque chose qui reste fondamental. Une démarche, un regard, une mimique, tout ça, ça renvoie très vite à des bêtes. J'aime bien ce mot de bête aussi.
Ah oui, 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 j'aime bien aussi. Peut-être, on peut parler de tes éditeurs. Quel genre d'éditeurs publient tes textes et quel rapport tu as avec eux? Comment ça se passe?
Alors l'éditeur avec qui j'ai publié le plus de textes, c'est Élis et Las. Ils sont basés à Vevey.
Oh, dis pas que c'est en référence à Louis de Funès.
Si.
C'est ça.
Parce qu'auparavant, il y avait une maison d'édition qui s'appelait Castagnier. Ouais. Et qui venait justement, qui était aussi un rapport à Louis de Funès. Et c'est...
Pourquoi?
Ça vient du petit baigneur où il y a une famille de roues qui s'appelle Castagnier.
Ah d'accord.
Et il hurle comme ça tout le temps, Castagnier. Et ensuite cette maison s'est splittée, l'un des éditeurs a lancé sa propre maison qui pour garder le lien, il a appelé Élis et Las, toujours en hommage à Louis de Funès.
C'est la Kélos.
Exactement.
Ouais. C'est la Grande Vadrouille ça.
C'est dans la Grande Vadrouille, ouais. Avec les planeurs. Ouais. Et c'est une maison qui publie toutes sortes de choses, pas aussi bien de la littérature que de la bande dessinée ou des romans graphiques, avec une prédilection pour des projets un peu folle-dingue, punk ou épique ou humoristique, ou en tout cas qui sortent des sentiers battus et qui sont prêts à expérimenter des choses assez différentes.
Tu voulais rajouter quelque chose, non?
Pas directement. Je voulais enchaîner avec d'autres éditeurs.
Oui, oui, vas-y.
Sinon, j'ai travaillé avec une petite maison qui fait du livre avec des artistes, des livres qui sont cousus à la main, fabriqués main, qui s'appelle Ripopée. Là, j'avais publié un livre de poésie. Et là, c'est ce qui est assez génial, c'est qu'on participe à la fabrication de l'ouvrage du début à la fin, ensemble, on choisit le papier. Enfin, vraiment un rapport assez direct. Tout à fait artisanal pour le coup. Et finalement, le dernier livre est publié à La Baconnière. Ça, c'est une maison d'édition plus ancienne, une vieille maison d'édition suisse en fait, qui a été reprise et réanimée par une jeune éditrice dynamique et qui a lancé, en plus de la collection qu'elle avait déjà, des nouvelles collections littéraires, des auteurs contemporains.
D'accord.
Beaucoup de traductions aussi.
Ouais, ouais. Et donc tu dis que tout ça ne te rapporte pas un rond, en gros?
Pas grand-chose. Si, mais disons qu'en général, ça me rapporte juste assez pour offrir, aller claquer l'argent, puis offrir un repas de fête à mes gamins en fin d'année. C'est vraiment ça.
Je propose qu'on écoute un autre enregistrement. Qu'est-ce que tu nous proposes alors? Qu'est-ce que tu nous proposes?
Et puisqu'on a parlé des animaux, là, ouais. Peut-être qu'on pourrait... On pourrait enchaîner avec quelque chose, mais malheureusement j'ai plus en mémoire tout ce que j'ai apporté. On voit au hasard puis on en parle après.
Peut-être tu veux la liste. Attends. Tiens, regarde.
Ah voilà. Donc oui, on peut parler de. Puisqu'on va enchaîner sur le bégaiement et les hésitations, voilà. Donc, lançons à mi. D-
Dites-nous ce que vous aimez. Aidez vos amis à en savoir plus sur les lieux que vous visitez. Ajoutez des détails. Invitez vos amis à aimer cette page. Aidez vos amis à découvrir de nouveaux lieux en recommandant le cabinet. 10 personnes aiment ça. Mireille et Capion sont maintenant amis. Ajoutez Mireille comme ami. Mireille est désormais amie avec Manon et 10 autres personnes. Mireille est désormais amie avec Bianca et 10 autres personnes. Mireille et Corazol sont maintenant amis. Ajoutez Corazol comme ami. 12 personnes aiment ça. Mireille est désormais amie avec Crippler et Edita. Mireille est fiancée à Lassine. Voir leur lien d'amitié. 17 personnes aiment ça. Partagez et restez en contact avec votre entoutou. Votre entoutou. Créez une page pour une célébrité, un groupe ou une entreprise. Créez une publicité. Retrouvez des amis. Créez une page. Choisir sa pub. Exprimez-vous. Acceptez l'invitation. Aimez la page. Créez un groupe. Actualisez les infos. Affichez l'historique personnel. Affichez un lieu de travail. Ajoutez une université. Ajoutez un lycée. Ajoutez des sports. Ajoutez des équipes. Recherchez de la recherchez de la musique que vous aimez. Recherchez des films que vous avez vus. Parcourir émissions de télévision, ajoutez des photos à la une, ajoutez vos citations favorites, ajoutez votre situation amoureuse, ajoutez un membre de la famille, aidez-le à retrouver des amis, cherchez des personnes, des lieux ou d'autres choses. Pascal est votre ami désormais. Envoyez donc un petit message. Invitez des amis. Choisir parmi vos amis. Billy vous a invité à aimer sa page Oxonix. L'anniversaire de l'anniversaire de Léa. Et le 18 septembre, si vous rassemblez vos amis, créez un événement pour les inviter. Écrivez sur son journal pour son anniversaire.
Du relâchement, hein. Il y a du relâchement. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, avec Alain Freudiger dans Les Oreilles Libres. Peut-être qu'on peut parler de... Alors là, ce n'était pas le cas, mais de ton rapport avec la musique. Il n'y a pas de musique, là. J'aimerais savoir...
Pas dans celui-ci.
Pas dans celui-ci, voilà. Donc, tu t'entoures de musiciens, tu inclus de la musique dans tes pièces, quand c'est plutôt du style électroacoustique. Je veux savoir tout simplement pour quelles raisons. Est-ce que la musique soutient le propos? Est-ce que ça l'agrémente? Quel rapport tu as? Comment tu envisages ce...
Non, alors c'est ni un soutien ni un agrément. Bon, moi c'est vrai que j'ai toujours beaucoup écouté de musique depuis tout gamin. Elle a très vite influencé mon écriture, en fait. Également, au niveau rythmique, au niveau même du phrasé, de chant, mais simplement aussi, j'écoute de la musique pendant que j'écris. Ensuite, comme je disais, donc je connaissais pas grand monde dans le milieu littéraire quand je me suis lancé dans mes premiers textes, et je connaissais pas mal de musiciens, donc je me suis mis à travailler avec eux. Mais une chose était assez claire pour moi, et d'ailleurs, ça, c'est un reste de mes études de cinéma où j'avais fait... Tout un séminaire sur Hans Eisler, compositeur d'avant-garde, et qui avait théorisé la musique de film. C'est-à-dire que la musique de film, pour lui, ne devait pas venir illustrer le film ou venir comme ça en soutien, mais il fallait qu'elle soit au même niveau que l'image. Et pour moi, c'est très juste cette approche-là. J'ai pas envie d'avoir un texte et qu'ensuite on vienne soutenir par de la musique.
Oui,
donc très vite, je me suis mis à travailler en dialogue avec les musiciens, à construire, à écrire, à créer, à dialoguer, à élaborer avec eux. Soit parce qu'on construit une pièce à partir de zéro tous ensemble, soit parce que j'ai un texte préalable, mais je suis prêt à le fragmenter, à le déstructurer en dialogue d'improvisation avec les musiciens avec qui je travaille. Donc c'est vraiment un travail commun, une élaboration ensemble. Il y a pas l'un qui vient soutenir l'autre, appuyer l'autre ou gratifier l'autre, que sais-je. Rien ne m'ennuie plus que des lectures où on vient rajouter du violoncelle par-dessus parce que ça fait joli.
Ouais, ouais. Donc il y a une interaction. Quoi.
Oui, oui.
Il y a vraiment une interaction. Et justement, ouais, je voulais savoir, sur ton site, on trouve, il y a un côté alors, texte et de l'autre son, tu vois. Et ce que j'aurais bien aimé savoir, c'est... tu écris, donc, comme on vient d'en parler précédemment, tu as édité, et à côté de ça, tu dis les textes. Et est-ce que dans l'écriture, tu intègres au moment de l'écriture la direction que ça va prendre? J'imagine que tu n'écris pas une fable ou une chose comme ça, ou un roman, de la même façon que tu écris un texte qui va être dit par toi sur scène.
Non, alors justement ça vient directement de ces premières expériences avec des musiciens où j'avais des textes écrits pour le papier, pour le livre ou pour la revue, que je lisais en scène et les musiciens improvisaient. Et je voyais justement là que j'étais prisonnier de ce texte qui avait déjà une structure close, des phrases déjà terminées, un rythme propre, ouais. Mais qui ne pouvait pas tellement s'adapter au dialogue justement avec la musique. Donc à partir de là, j'ai commencé à écrire des textes spécifiquement pour la scène, pour le son ou pour l'accompagnement avec des musiciens, et d'autres qui sont strictement sur papier, voilà. Qui vont devenir des livres ou des textes publiés.
Qui eux ne seront jamais lus sur...
Alors après, évidemment, encore une fois, je n'aime pas me laisser enfermer, donc il y a des passerelles. Certains de ces textes, je les ai utilisés sous une forme orale, et puis d'autres qui ont été écrits pour l'oralité finiront par être publiés. Mais c'est quand même deux travaux assez différents à la base. Et puis même quand tout à coup un texte oral devient publié ou un texte publié devient oral, il subit des transformations, ils ne sont pas identiques.
Et alors, tu parles de musicien improvisateur, est-ce que tu improvises toi sur tes textes par exemple? Est-ce que tu as une marge ou pas du tout ou complètement ?
Alors tout dépend des projets, mais en général il y a une marge justement, parce que forcément quand on travaille avec des musiciens improvisés, de force ou de fait, on se met à improviser nous aussi, même si à la base c'était pas du tout notre terreau d'origine.
Mais est-ce que tu es parti déjà sans rien, sans aucune base écrite?
Non, en général, j'ai quand même besoin d'une base écrite. Quoique, non, c'est arrivé que je parte avec des sortes de ritournelles dans la tête ou des cris d'animaux, des vagues sons. Partir avec aucune première matière, non, ça, j'ai pas fait. Mais en général, ça peut arriver qu'elle soit uniquement dans la tête. C'est rare, mais c'est arrivé quelquefois, oui.
Ah, d'accord, ouais.
Mais c'est vrai qu'en général, j'utilise mes textes comme des sortes de... comme un instrument, une sorte de partition dans laquelle je vais puiser, je prends un mot ici, un autre là, c'est des outils.
Je vois que tu as un texte en main, là, tu veux
par exemple. Par exemple, Moa, grand Moa, oiseau de terre, inapte au vol, envolé, disparu de la surface de la terre, tu courrais parmi les bois, les bruyères, longues pattes, moignons d'ailes, bétail à plumes, troupeau à bec, rapace au sol, fauve à plumage, Moa, 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 tu hantais les forêts sans âge dans cette terre isolée de la Nouvelle-Zélande, bien avant les Zélandais, bien avant les Hollandais, bien avant toute forme de zoo. Les Maoris sont arrivés, t'ont mangé et massacré. Tu n'as pas fait de vieux zoo. Quand les autres sont arrivés, les Zélandais, les Hollandais, tu n'étais déjà plus là, tu étais déjà éteint. Teint, chair à chasser, proie de choix, tes œufs assez gros pour 10 repas, oiseau mal placé, inapte au vol et à la nage, oiseau de terre, de course molle et de pillage, chaînon manquant, oiseau buffle, oiseau sanglier, destiné à être dévoré, Moa, 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 tu occupais la place d'un autre que toi, celle d'un mammifère, grégaire, herbivore, mais... l'homme les a domestiqués. Pas toi, grand Moa, pas toi, grand Moa. Tu cachais mal tes œufs, tu ne les défendais pas. Lorsqu'ils ont trouvé, les Maoris t'ont tant mangé qu'ils t'ont exterminé. Moa, grand Moa, il ne reste rien de toi.
Merci. Alain Freudiger, en direct du studio de Radio Libertaire. Alors, est-ce que, par exemple, la façon dont tu viens de dire le texte, est-ce qu'elle est travaillée? Est-ce qu'elle est... comment dire, je sais pas si c'est écrit, comment c'est écrit par exemple, tu vois. Ah oui, d'accord.
Alors, typiquement, là, c'est un poème sur le moa, qui était un oiseau disparu de la planète. Et il a été utilisé et usé jusqu'à la corde dans un grand nombre d'improvisations. Donc, au bout d'un moment, il y a certaines formes qui prend. Mais là, j'ai essayé de m'en dessaisir pour en faire quelque chose d'un peu différent. De temps en temps, j'entends un écho d'improvisation passée, mais ah, en gros, c'était prendre une autre orientation. Là.
D'accord. Ah oui, donc tu as des... Oui, il y a quand même un travail.
Il y a quand même un travail, mais au bout d'un moment, même si on improvise, il suffit de le faire plusieurs fois. Au bout d'un moment, ça prend une forme qui se cristallise. Mmh. Et comme je disais encore une fois, j'aime pas me laisser enfermer. Donc, ouais, de temps en temps, j'essaie de le tirer vers autre chose.
Quand je parlais de travail, c'est le travail d'interprète, évidemment, puisqu'il y a le travail d'écriture, soit, mais il y a aussi... tu interprètes tes textes toi-même, quoi.
Oui, ça c'est vrai que j'ai très vite voulu les interpréter
oui,
moi-même.
Pourquoi d'ailleurs ? T'as pas cherché à les faire... Pourquoi le faire toi-même, quoi ?
Parce que, en fait, quand t'écris, t'es toujours dans ton coin à écrire tes machins. Et puis moi, j'enviais les musiciens, les comédiens pour leur rapport au public et ou simplement à travailler en commun. Parce que quand on écrit, en général, ça peut arriver un texte à deux, mais c'est plus rare. Donc pour la rencontre, pour le lien social, d'abord. Mais ensuite aussi, parce que tout le travail sur la voix, moi, ça m'intéressait beaucoup. C'est quelque chose qui est assez proche de l'écriture pour moi. Mmh. Et finalement... c'est vrai que quand les premières fois que j'essaie de proposer ici ou là des lectures en France, on m'a dit « Oh là là, mais non, en France, il faut que ce soit un comédien qui lise ton texte. Si tu lis toi-même, c'est comme si tu déchois, etc. » Moi, je ne comprenais pas ce langage. Peut-être aussi parce qu'en Suisse, on a tout ce rapport à la tradition germanique où il y a beaucoup plus de jeux d'oralité, d'auteurs qui lisent leurs propres textes, qui interprètent. Il y a moins cette espèce de séparation des mondes.
On va peut-être. Alors, est-ce que tu peux dire à Laurent ce qu'on va écouter après ?
Alors maintenant,
j'aurais encore une question sur la musique peut-être, oui. Sur les musiciens avec qui tu joues.
Alors justement, on a parlé d'électroacoustique, on va écouter Thermal, des extraits.
L'air est verdâtre, où est-ce les murs ? Quelque chose sonate, l'envissure sur les murs, pas de sonnure. Mirodure, crevure, maculure, maculure, c'est malade. Les soins, je veux des soins. La cible, j'ai la santé fragile. Je suis malingre, je suis malencontreux. Diagnostic arthrite, diagnostic neuropathe, diagnostic. Tuberculose, pneumonie, léthargie, neurasthénie.
Les lignes sont claires en espalier, les plafonds hauts, les fonds très peu profonds, les bassins communiquent peu mais se répondent de guingois, un chaud, un froid. Séparés par une voûte ou une passerelle lustrée, reliés de traverses en bois, laissant les bords des bassins résorber, l'excès d'eau débordant à chaque instant vers les conduits souterrains. On évite les angles et les duretés, et ce n'est pas toujours possible, mais l'eau finira bien par éroder tout remplacer par son calcaire, son talc, son calque, son catafalque, alcalin les bains, fluide alcalin, onde alcaline, Alka-Seltzer et eau de Seltz.
comprendre comment tout ça va, qu'est-ce que raison. Ah, c'est trop, hein, trop con, flasque, nage, flappi, brasse, rizou, promiscuité, trop près, vapeur, vois rien, vapeur, négation des bords, arrondi partout, personne n'aime être au milieu.
Voilà, Alain Freudiger, alors c'était...
C'était Thermal, Thermal, une pièce électroacoustique.
Avant d'arriver à ça, je voulais que tu nous parles des musiciens avec qui tu as l'habitude de travailler, peut-être les citer ou...
Alors justement, notamment cette pièce, mais deux musiciens, Benoît Moreau et Raphaël Racouilla, on a un trio qui s'appelle Descendre, on a tourné plusieurs pièces, dont une d'ailleurs qu'on est venu jouer en 2012 ici à Radio Libertaire, oui. En direct dans l'émission Epsilonia, qui s'appelait Tobago. Clair, mais...
Oui.
Voilà, une pièce radiophonique qui se joue en direct. Donc on avait fait une petite tournée française, belge, et on était venu jouer ici. Des beaux souvenirs.
Mais oui. Alors, j'avais une question sur ce truc-là, d'ailleurs. Ça parlait de... Allez, on va parler de ça. Ça parlait de...
Ça parlait de colonisation. En fait, c'est le plus petit état au monde à l'époque qui a lancé la colonisation. C'était la Courlande, un grand duché sur la Baltique, qui s'était lancé dans la colonisation de l'île de Tobago dans les Caraïbes. On était parti de ce prétexte pour faire un pseudo-documentaire qui était surtout une manière d'expérimenter des sons et des sons radio.
Ah ouais. Il y a un texte aussi qu'on voit sur ton site, je ne sais pas le titre du texte parce que c'est une vidéo, et ça commence par « Les Suisses sont lents, les Français sont ceci, les Allemands sont disciplinés », et donc il y a une critique encore une fois. Je voulais savoir si tu es politisé tout simplement.
Alors pour revenir à ce texte, il fait partie d'un ensemble avec ce qu'on a entendu tout à l'heure avec les amis dits 12 ans davantage, etc. C'est une pièce en trois parties qui se base sur les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, et le langage qu'ils ont. En fait, c'est une des rares fois où il n'y a aucun mot de moi. Je ne fais que puiser des phrases sur leur site. Et tous les Suisses sont, les Français sont, ce sont les premières suggestions que fournit Google quand on tape ce début de phrase. Moi, je me suis amusé avec ça. Après, oui, évidemment, il y a une dimension politique là derrière. Je suis assez critique envers beaucoup de choses. Les technologies numériques dans l'emprise privée Silicon Valley qu'elles prennent, par exemple, c'est un des éléments. Où est le numérique libre, public ou libérateur même, utopique qu'on nous avait promis dans les années 90
Ouais. Moi, je voyais aussi dans cette histoire-là des nationalités, puisque ça parlait des Suisses sont, les Français sont. Il y a quelques années, j'avais vu à la télé une interrogation dont la réponse m'aurait intéressé. À savoir, il s'interrogeait, c'était une très vieille émission, hein, 20 ou 30 ans, il s'interrogeait, c'est des gens doctes, s'interrogeaient sur ce qu'est la nationalité. Et moi, j'avais un problème avec ça, donc j'étais friand d'avoir des réponses. Et la réponse, en l'occurrence, c'était un des éléments constitutifs, était la langue. Ce que je trouvais bizarre, parce que je sais qu'il y a des Suisses qui parlent français, je sais qu'il y a des Français qui parlent basque ou alsacien, breton. J'aimerais savoir ce que tu penses de ça, la langue. Est-ce que c'est important pour toi ?
Ah, pour moi, la langue, c'est crucial, mais ça ne fonde pas la nationalité. Enfin, étant moi-même suisse, je serais bien en mal de la fonder là-dessus. Ouais. Non, la langue, elle, bien sûr, c'est crucial parce que je suis en lien avec la France, la Belgique, le Sénégal, le Québec ou plein d'autres gens qui parlent français. Après, la nationalité suisse, c'est autre chose. C'est plutôt une histoire et c'est quelque chose qui est toujours un enjeu, d'ailleurs, politique aussi, parce que ça peut être... Ça peut être rapiécé, rapporté, réduit à une chose nationaliste, étroite. Au contraire, on peut essayer de la tirer vers ce qu'était la Suisse comme idéal républicain, révolutionnaire au XVIIIe et jusqu'au milieu du XIXe siècle. En 1848, après les révolutions européennes qui sont toutes écrasées les unes après les autres, la Suisse, pendant quelques années, est la seule république en Europe, la seule démocratie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens vont y trouver refuge. Aujourd'hui, la Suisse a plutôt l'image d'un paradis du capitalisme, de la finance dérégularisée. Mais tout ça, ça, c'est aussi quand on tire dans un sens ou dans un autre ce qui est un pays par définition multiple.
Il y a quelques années, je t'en parlais en antenne, j'avais reçu Flimmer, un groupe punk de Suisse, et j'avais essayé de les interroger sur la Suisse parce que moi, ça m'a... Il y a des contradictions dans ce pays-là
énorme.
Qui m'étonnent, oui, oui, oui. Et je voulais savoir... Alors, voilà l'image qu'on en a ici, c'est peut-être con, hein, mais ça, les Suisses sont, tu vois, comme,
oui.
Mais pas Google, alors c'est Radio Libertaire, peut-être il y aurait un truc. Les Suisses sont, je sais pas, disciplinés, machin, c'est l'ordre, c'est le fric et tout. Or, il y a une création, y avait ce groupe punk, il y avait des trucs. Je voudrais savoir ce qu'il en est de la création hors norme en Suisse. Est-ce que c'est facile, tu vois, on parlait de l'art brut tout à l'heure, du musée. Est-ce que c'est facile d'être hors les sentiers battus?
C'est facile, et j'ai même l'impression que c'est plus facile que dans un pays comme la France, c'est parce qu'il y a il commence à y avoir une tradition d'artistes en marge, que ce soit en littérature, en musique, en peinture, dans la plupart des domaines. Et pourquoi? Peut-être que c'est aussi justement parce que la Suisse est tellement policée, ordrée, proprette, que par réaction, on a envie de faire tout autre chose. Et par ailleurs, comme la Suisse est toujours périphérique, qu'on soit suisse francophone, germanophone ou italophone, on est toujours périphérique par rapport au pays dont on parle la langue.
Ah, d'accord, ouais.
Donc on se permet d'expérimenter d'autres choses, parce qu'on ne parle forcément pas la langue de la capitale, forcément on n'est pas dans la province, mais on est carrément dans la périphérie. C'est donc, paradoxalement, ça donne une plus grande liberté d'expérimenter. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a tout ce rapport au monde germanique qui, lui, dans beaucoup de champs, en musique, en théâtre et dans beaucoup de domaines, est peut-être plus ouvert à l'expérimentation parce qu'il ne s'est jamais constitué autour d'académies et de choses de cet ordre. Donc tout ça fait que, oui, la Suisse est une terre assez propice aux projets artistiques hors cadre.
Ouais. Et alors, est-ce que tu sais qu'en France, il y a des gros soucis par rapport au financement de la culture ? Allez, on va dire ça largement. Et qu'en est-il en Suisse ? L'état d'un artiste, enfin, je veux dire, c'est facile d'être créateur en Suisse ?
Bon, alors clairement, en Suisse, il y a de l'argent, donc il y a aussi de l'argent pour la culture. Après, le fait est que la Suisse n'est pas un pays qui porte la culture très très haut. C'est pas une mission fondamentale de l'État. En général, on laisse ça plutôt aux petits échelons, les cantons, les villes, les communes. Donc, selon les coins du pays, il y a plus ou moins d'aides. Mais il y a des endroits où on trouve des aides. Après, encore une fois, les artistes, là, il y en a tout plein qui galèrent. Pour monter des projets ou pour développer des choses, il faut être prêt à être un crève-la-faim pendant quelques temps. C'est pas forcément mieux qu'ailleurs. Mais il y a quand même peut-être plus de possibilités de monter des choses, de trouver des sources de financement. Qu'en France, j'imagine, oui.
Oui, oui, oui. On en avait parlé avec Antoine Lang du festival Acouphènes, effectivement, comme je t'en parlais en antenne. Alors justement, on parle de festival, alors je ne sais pas si c'est un festival, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est à Lausanne les Topophoniques ?
Alors les Topophoniques, c'était une rencontre unique qui a eu lieu le 18 septembre dernier et qui réunissait tout ce que la ville de Lausanne comptait d'improvisateurs, de performeurs, de musiciens justement hors les cadres. En fait, c'est né à l'initiative d'un groupe de musiciens à qui on avait proposé de lancer un prix de composition et qui se sont dit... Non, mais ça, c'est pas très intéressant. On va plutôt utiliser cet argent pour faire une sorte de topo, d'état des lieux de la création sonore de cette ville de Lausanne. Et des tas de gens étaient invités à présenter une pièce créée pour l'occasion. Et c'est là que j'ai justement présenté cette pièce poétique sur les GAFA.
D'accord. Nous, j'ai vu dans la liste des musiciens quelqu'un qu'on connaît un peu ici à Paris et puis même en France. Je crois qu'elle était au festival Echo. C'est Patricia Bossard.
Ah, bien sûr.
Ouais,
oui, oui.
Et je vais discuter avec elle. Il était question qu'on l'invite un de ces jours dans l'émission.
Mais vous feriez bien.
Oui. Et alors, ce nom de topophonie, moi, m'a étonné par rapport à une des thématiques qui me semble t'intéresser. C'est la relation entre un lieu et et le son. On a entendu tout à l'heure les thermales.
Thermales.
Comment ça s'appelle ça? C'est les bains.
Oui, alors thermales, c'est lié aux bains thermaux. On allait faire des prises de son directement sur le site, avec parfois aussi même des hydrophones.
Voilà. Tu as également fait un travail sur les bibliothèques, il me semble-t-il.
Car oui.
Qu'en est-il de... Est-ce que tu peux nous expliquer cet intérêt pour les lieux et les sons?
Alors ça, c'est particulièrement lié à notre trio des cendres, où on se base beaucoup sur des architectures, des lieux, des sonorités liées justement à des espaces. Donc la bibliothèque, le bain thermal par exemple. C'est très vite des sons concrets, donc il y a tout un travail parfois de field recording ou alors de composition électroacoustique qui crée des résonances. D'où ça vient? Ouais, en fait, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que je suis aussi archiviste radio. Oui. Je m'occupe notamment de tout ce qui est bruitage et ambiance sonore. Et forcément, je pense qu'au bout d'un moment, ça a façonné mes oreilles d'une certaine manière. Et l'intérêt pour les sons concrets vient directement de là. Mmh. C'est vrai que alors, à la radio, il y a la musique, il y a le parler, la parole. Mais il y a cette dimension beaucoup moins utilisée, mais qui est pourtant énorme, qui est le bruitage. Ouais. Et ça élargit le champ acoustique d'une manière assez phénoménale.
Qu'est-ce que tu nous proposes pour illustrer ce propos, ou pas du tout, pour ne pas l'illustrer du tout?
Alors, puisqu'on a parlé de bibliothèque, on peut écouter ABC. C'était un concert qu'on a donné sur le monde des bibliothèques, en fait.
Soit le gouvernement considéré, qu'on l'élise ou qu'on le subisse, qu'il soit basé sur l'Église ou qu'il soit basé sur la police, il se fonde, ce gouvernement. Tout bien considéré, il se fonde sur quelques livres. Sur quelques livres.
Ces livres, il faut les entreposer. Et même s'il n'y a qu'un livre, les autres. Mais la bibliothèque a son
Quelqu'un rêvait d'une bibliothèque tout en verre, transparente, accès direct par la tangente. Quelqu'un rêvait d'une bibliothèque sans mur, transparente, accès direct et plus si entente. C'est une politique. On y pense. C'est une évidence. Une politique.
Venez, c'est par là.
Alors Alain, peut-être on va terminer l'émission avec cette fameuse chanson de geste que tu vas faire demain avec le collectif Citrouille, nos invités de la semaine dernière, qui t'invite pour cette soirée. Qu'est-ce que la chanson de geste contemporaine et poésie épique carnavalesque ?
Oui, c'est né en fait d'un texte que j'ai écrit il y a 2 ans qui s'appelle Morgarten. Il faut savoir que Morgarten en Suisse, c'est une bataille médiévale, mais qui a une importance mythique, historique, comme, je ne sais pas moi, en France, Austerlitz ou la bataille de Roncevaux ou Poitiers ou que sais-je. Mais ouais. C'est une bataille qui a donné lieu à beaucoup de lectures historiques, dans tous les sens d'ailleurs. On attire vers le conservatisme ou vers une lutte de libération contre les oppresseurs aristocratiques. Enfin, il y a beaucoup de niveaux de lecture possibles. Et 2015, ça aurait été le 700e de cette bataille. Je me suis pris de l'envie d'écrire un petit texte là autour, mais de l'écrire à ma sauce. Puis j'en ai fait une version contemporaine et carnavalesque, justement. Mmh. Une sorte de révolte des laissés pour compte contre les élites, contre les dominants, contre les brillants, les médiatiques. Mmh. Et tout ça sur un mode résolument burlesque, mais en même temps une écriture assez resserrée, assez rythmique. Et au bout d'un moment, un des éditeurs m'a dit mais c'est une chanson de geste que tu as écrite là. Et c'est vrai que j'ai repris ce terme en disant oui, c'est vrai.
Mais je ne sais pas ce que c'est, la chanson de geste.
La chanson de geste, c'est un vieil art médiéval, peut-être qui est à l'origine de la poésie en France, avec des troubadours, des trouvères qui chantaient dans les cours et qui racontaient des exploits, souvent soit de héros, soit de grands personnages, soit guerriers, comme le plus classique, c'est la chanson de Roland.
Ah oui, d'accord, oui.
Et à partir de là, et souvent accompagné de musique en fait. Et puis comme je travaille justement l'oralité, parfois avec la musique, je me suis dit que c'était une tradition peut-être à réinventer ou en tout cas à revisiter. Et j'ai travaillé avec une musicienne qui s'appelle Anne-Sylvie Casagrande. Je cherchais quelqu'un qui joue aussi bien de la vielle à roue que de la musique électronique. Ah, il y en avait une seule en Suisse romande, c'était elle. Puis elle est capable d'improviser, de chanter, brillante musicienne. Donc on a fait une petite tournée de ce Morgarten, qui a eu ensuite eu aussi des déclinaisons où je faisais des spectacles en solo. Je me suis pris de jeu avec cette forme à la fois rythmique, carnavalesque et épique, parce qu'il y a une tonalité épique, même si elle est ironique aussi, satirique.
D'accord. Bah, alors donc c'est ce que tu vas interpréter
Et c'est ce que je vais présenter demain soir, invité par le collectif Citrouille au théâtre Le Populaire.
Alors ouais, on va dire le truc, donc c'est à 22h30 au théâtre Populaire, 36 rue Henri Chevreau, dans le 20e arrondissement de Paris, 22h30. Donc voilà, vous avez le temps de faire des choses avant. Ça dure pas très longtemps, ça dure une heure, un peu plus d'une heure, on va dire. C'est entrée libre, mais participation libre. Et que dire d'autre ? Alors, il y a une première partie où tu seras seul.
Voilà, où je ferai cette chanson de geste.
Oui. Et la deuxième partie, tu improviseras avec les musiciens du collectif Citrouille. Une partie des musiciens qu'on a entendus la semaine dernière lors du concert traditionnel dans notre émission, le concert du Nouvel An.
Oui, alors j'ai vu sur vos ondes.
Ah oui, donc ça c'est demain. Et alors je voudrais savoir, est-ce que tu as d'autres projets à venir, que ce soit des publications, des concerts, des performances?
Oui, alors en début mai, je suis invité avec le trio Descendre, dont je parlais tout à l'heure, au festival Brouillage, qui est organisé par Radio Campus à Paris.
Ah oui.
Pour venir présenter cette pièce thermale dont on a entendu quelques extraits ici. Ouais. Ça sera le 1er 2 mai. Ça c'est pour le sonore. Sinon, j'ai différents textes qui sont en travail, dont un roman qui s'appelle, il a un titre provisoire qui s'appelle La Coque. Et c'est un roman de l'inondation, du déluge et de la liquéfaction de tout. Voilà.
Ça donne envie. Bon, bah, j'encourage les auditeurs à venir te voir demain. La semaine prochaine, nous diffuserons l'interview de Barbara Dang avec de larges extraits de chroniques de disques. C'est une émission consacrée à la revue et corrigée. On devait la diffuser le 23 décembre dernier, et puis que ce soit moi ou Laurent, on n'était pas disponible, on travaillait en fait, quoi. Et donc on n'a pas pu la diffuser. Ce sera donc la semaine prochaine Barbara Dang et revue et corrigée. Avec, on entendra avec beaucoup, beaucoup d'émotion, je pense, la voix de Dominique Repeco, qui nous a quittés assez récemment. Alain Freudiger, merci beaucoup. On va terminer
merci à toi.
On va terminer, merci à Laurent également pour la technique. On va terminer avec,
merci Laurent.
Avec un extrait de, peut-être même la totalité, je ne sais pas. On est censé être suivi par l'émission Le Kimboiseur, mais je ne vois arriver personne. On va lancer le Morgarten.
Très bien.
Et puis à nos éditeurs, à la semaine prochaine. À demain, Alain. Salut.
Salut.
Ceux qui furent témoins de l'attroupement étonnant ce jour-là sur ce coin précis du territoire n'étaient pas prêts de l'oublier. Ce n'était pas une venue ordinaire. Il y avait là des éléments de surprise et de détermination, des visages à la fois farouches et décidés que l'on n'avait plus rencontrés depuis bien longtemps dans le pays. Quelque chose avait sillonné et frémi pour relier tous ces gens, apparemment on ne sait trop comment. Et soudain ils étaient tous là à nouveau, ils s'étaient tous rassemblés à flanc de coteau, le petit peuple, les petites gens du pays dans les montagnes, et ils étaient venus cette fois de bien plus loin qu'autrefois. Ils étaient venus de Dornach et de Mendrisio, même si d'autres étaient de la Muota voisine. Ils étaient venus du Locle, de Brig et même de Romansorn. Ceux de Renan étaient nombreux, ceux de Mérin tout autant. On ne comptait plus ceux d'Olten et ceux de Winterthur. Ils étaient venus de Moutier et de Chiasso pour se poster tout là-haut. Les gens d'Emmen et les gens de Stans étaient arrivés avant les autres. Ils avaient accueilli les cohortes de Lofon, de Bienne et de Wettingen. D'autres avaient afflué d'Yverdon, de Bé, de Poschiavo. Beaucoup provenaient de Monté, de Cloten ou de Guin. Ils ne portaient ni ni bannière, ni drapeau. Il se fichait de ses oripeaux. Mais il disait haut et fort d'où il venait. Et leur voix valait n'importe quelle cocarde. Certains avaient des accents à couper au couteau, tandis que d'autres truffaient leurs mots d'argot. Tous étaient venus avec leur langue. Tous étaient venus pour ce grand moment. L'appel avait circulé dans les bistrots, sur les réseaux sociaux. Il avait pris une ampleur discrète, gagné une envergure toute secrète. Il avait été transmis et communiqué fidèlement aux intéressés, qu'il avait eux-mêmes répercuté. Il avait fait boule de neige. Comme il se doit au pays des petites gens dans les montagnes, il avait entraîné d'autres intéressés. Il avait tourné des indécis, convaincu des assis, galvanisé des énervés. Et s'était répandu comme une traînée de poudre, ainsi qu'il se doit au pays des armes à domicile. Il avait essaimé au sommet des monts enneigés, au fond des vallées reculées, au cœur des villes bien cises, au profond des banlieues grises. Il avait circulé entre les réseaux de résistance, les affinités de voisinage, entre les associations de quartiers et les groupements de hackers, entre les habitants des rues et les communautés des périphéries, entre les campeurs illégaux et les abrités des parkings. Le secret avait été bien gardé. Ceux qui le tenaient ne l'avaient pas éventé. Ceux qui le tenaient étaient des gens ordinaires. On aurait pu les appeler des frères ou des pères, si ces mots avaient encore un sens, mais de ce sens-là, ils faisaient peu cas. L'important, c'est qu'ils étaient là. Ils étaient là et rassemblés, les locataires expulsés, les pré-retraités licenciés, les requérants déboutés, les savants ignorés. Ils étaient là, flanc de coteau, les vieillards à canne et les femmes de ménage. Ils s'étaient déplacés jusqu'ici, les assistés, les drogués, les sans-papiers. Ils avaient convergé, les perdants du taux de change, les corvéables du service, les bouseux immobiles, les stagiaires perpétuels. Ils avaient fait tout le trajet, les méprisés, les paumés, les clochards et les pochards, les repentis, les apprentis. Ils avaient répondu présent, les mal assurés, les trop enfermés, les téléspectateurs outrés, les épargnants floués, les volontaires à qui on ferme les portes et les abonnés aux lettres mortes. Ils s'étaient unis au rassemblement, les mal réinsérés, les désaffiliés, les bons à rien, les bras cassés, les gens foutre, les fesses Mathieu. Ils s'étaient joints au mouvement, les éternels assistants, les universitaires sans recherche, les soignantes sous médoc et les hommes sans métier, artisans chevronnés, médecins débordés, maçons accidentés, éducateurs pressurisés, postiers vidéosurveillés, ouvriers dégraissés, ils avaient fait le déplacement. Mendiants et dealers, tapineuses et rustleurs, ex-cadres suicidaires et saltimbanques, voleurs de poules et braqueurs de banque, ils étaient tous là, avec les artistes sans curatelle, les bricoleurs de bouts de ficelle, les mères célibataires, les damnés de la terre, et ils attendaient le moment propice, le moment du précipice. Le ramassis était prêt. La canaille était à l'affût. La racaille était au rocaille. Ils étaient venus de nuit, les plus tardifs au petit matin. Ils avaient gravi la sente, pas après pas, en silence dans la plupart des cas, en échangeant des mots à voix basse, parfois ceux qui se comprenaient et même ceux qui ne se comprenaient pas, en dialecte et en langue claire. Certains avaient entonné un vieux chant, non pas un Morgartenlied qui demeure introuvable, à l'inverse du Semparerlied, qu'ils n'entonnaient pas non plus d'ailleurs. Sempar, c'était autre chose. Les pics, le sacrifice, c'était différent. Eux étaient à Morgarten, jardin de mort, et c'est le chant de la Bérésina qu'ils avaient fredonné.
Notre vie est un voyage dans l'hiver. Et dans la nuit, nous nous cherchons notre passage sous un ciel où rien ne lui, sous un ciel où rien ne lui.